Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 172, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je reçois Anatole Nemi. En réalité, je reçois Anatole pour la seconde fois, car il y a deux jours, le son était tellement pourri que j'ai été obligé de renoncer. Donc aujourd'hui, croisons les doigts, d'autant que Anatole nous reçoit depuis sa chambre d'adolescent. Pour cet épisode, j'ai fait appel à mes sources d'informations les plus obscures pour obtenir des anecdotes et détails croustillants sur Anatole. Et figurez-vous que le gars en question est un véritable tombeur, capable de faire chavirer le cœur des Siciliennes même après 5 jours de course, sans douche. Et donc, Anatole est une énigme, un mélange flegmatique de fougue et de nonchalance à peine dissimulée. Alors que cache cette nonchalance? Qui est l'homme derrière le voyageur à vélo et le coureur ultra? Oui, voilà la question du jour. Qui est l'homme derrière le mythe? Car oui, Anatole est déjà un mythe. Un détail avant de rejoindre Anatole, j'expérimente un truc. J'ai créé un groupe WhatsApp pour que, vous qui écoutez, puissiez faire remonter vos questions et réflexions. Je vais donc alimenter cet épisode grâce à vos questions. L'adresse du groupe est dans la description de cet épisode. Et sans plus attendre donc, Anatole Nemi. Bonjour Anatole.
Salut.
Bon alors tu es dans ta chambre d'adolescent. Parce qu'il y a deux jours le son depuis ton appartement était relativement pourri. Et tu m'as dit, eh bien, dans deux jours, j'irai chez mon père, l'internet est un petit peu meilleur, et là, on peut voir que tu es dans ta chambre d'adolescent, constellée de prises d'escalade. C'est qui suggère que tu es un véritable grimpeur.
Je l'ai été, jusqu'à 14 ans.
Et après?
Et après, je me suis blessé, puis j'ai un peu arrêté le sport, et puis je me suis remis au vélo en 2016, je pense. Non, j'ai essayé de rouler dans un club d'abord, pendant deux semaines, puis jamais pas du tout. Et après, je me suis remis vers 17 ans pour faire Liège-Bastogne-Liège. Et puis, après, c'était le voyage à vélo. Et puis après, ben, je suis allé faire quelque chose de plus long.
Parce que tu n'es pas très, très vieux, je crois. Tu as 22 ans, tu m'avais dit.
22 ans, oui.
Ouais. Donc, vers 17 ans, tu t'es remis au vélo. Tu as commencé, tu as fait divers trucs. Et tu es parti 2 ans en voyage. C'est bien ça?
Oui,
dont un long voyage de 6 mois.
Oui, je suis revenu à cause du virus en mars 2019, je pense, pendant le lockdown, pendant le confinement. Et puis, je me suis mis en formation pour faire mécanicien vélo. Et c'est là que j'ai commencé à faire une course d'abord ultra. Et après, j'ai vu que ça s'était bien passé et tout ça. Puis j'ai continué l'année d'après. Et puis, on verra pour cette année ce que je vais faire. Enfin, j'ai une idée du programme, mais on verra ce que ça donne.
Ton programme, je le connais déjà un tout petit peu pour le début d'année, mais bon, tu m'en parleras après, tu nous en reparleras un tout petit peu après. Pourquoi tu t'es remis au vélo? Alors déjà, tu me dis, je me suis remis au vélo. Alors certes, tu es belge, tu es à côté de Liège, donc le vélo, nous la blague, c'est tu vas rouler avec un belge, même s'il fait pas de vélo, il te mettra une race quand même. Donc tu es belge, ce qui signifie que le vélo est quand même une petite seconde nature, mais tu me dis « je m'y suis remis », ce qui signifie que tu avais eu une interruption avec l'escalade, etc.
Non, j'ai fait un peu de VTT quand j'avais 8-9 ans, et puis j'ai refait du vélo à 12-13 ans quand j'étais à l'escalade, et puis je n'ai pas aimé, j'étais dans un club avec des gens qui font de la route, tout ça, et puis ça a tenu 3 semaines je pense, ou un mois peut-être.
Ouais.
Et puis il fallait s'entraîner tous les jours et moi j'étais incapable de faire ça. Et puis je me suis remis au vélo vers 17 ans, 18 ans, et là j'étais à Liège-Bastogne-Liège et puis après je suis parti en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Pourquoi faire en Australie et Nouvelle-Zélande ?
Oh, dans l'idée, à la base, je disais déjà quand j'avais 17 ans, je voulais aller en Australie à vélo. Et finalement, je n'aimais pas trop les études, alors je suis parti directement après 3 semaines en avion en Australie et puis je m'étais dit que je reviendrai à vélo. Puis j'ai entamé mon retour et puis quand je suis arrivé en Inde, ben là, c'est fermé avec le virus. Donc je suis rentré à Liège et là j'ai fait une formation pour apprendre à réparer entre autres mon vélo. Parce que je n'y connaissais absolument rien.
Alors je fais une petite parenthèse. Paraît-il que pendant la Two Volcano Sprint, avec une de mes sources hein, d'ailleurs, tu parodiais l'intro du podcast en disant Spotzel ici, Anatole, celui qui ne sait pas réparer ses roues, c'est vrai?
Oui, parce qu'un des seuls Spotzel que j'ai écouté, c'était je pense avec Arnaud Manzini ou avec Yvonne je pense, et tu avais dit que tu avais monté ta roue en tubeless, si je me souviens bien.
Mais ça c'était il y a longtemps alors hein, parce que oui. Maintenant le tubeless c'est plus un problème, mais effectivement ouais, au début ça a été un petit peu physique, comme pour beaucoup de monde je ne savais pas faire, donc j'imaginais que c'était de la merde et que ça marchait pas, et en fait le truc qui fonctionnait pas c'était moi quoi, donc mais aujourd'hui ouais. Ça va, je te rassure, c'est plus un problème, mais en tout cas merci d'avoir parodié, c'est toujours hyper rigolo à entendre comme anecdote, ça me
plaît. Après j'en ai bavé hein, 5 minutes après.
Ouais, mais ça c'est pas grave. Pourquoi être parti à 19 ans ? Qu'est-ce qui fait qu'on part à 19 ans en voyage ? Alors certes, t'avais envie de voir l'Australie, les kangourous, les australiennes, ça je le comprends totalement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 19-20 ans, on part jusqu'au fin fond du Népal à vélo ?
Le Népal, c'était un rêve. Une partie de l'Asie aussi, je pense. Tout le Laos. Et... vraiment, ce qui m'intéressait arrivait, c'était l'Iran, Pakistan, et je voulais peut-être le Tadjikistan pour faire la course. Et c'est là que j'ai appris, en fait, qu'il existait des courses longue distance avec la Sea Mountain Race. Mais à la base, c'est là que je voulais faire ça en voyage. Mais je voulais pas passer par la Chine, donc j'avais mes visas pour l'Iran et le Pakistan et tout ça. Et, j'ai dû rentrer à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'a fait? Je pense que le voyage à vélo, c'est quelque chose qui m'a quand même tout de suite plu. J'avais vu qu'il existait des livres un peu là-dessus. Et je n'aime pas trop voyager en avion. À pied, je ne vois pas trop l'utilité. Et alors, ça se passe parmi les moyens de voyager. Et le vélo est un voyage lent. On rencontre les gens différemment. On s'arrête à des endroits où on ne s'arrêterait pas. On voit des villes où on n'irait jamais. Et j'aime bien le fait de ne pas planifier. Je ne sais jamais où je vais. J'ai découvert qu'il existait l'histoire de visa et tout ça. C'est un peu innocent pour tout ça. Et puis... oui, je voyais pas l'utilité pour moi de faire des études à ce moment-là, 19 ans, quand je sortais de l'école. Ça ne m'intéressait pas et je n'y voyais pas de finalité.
Bon, visa pour l'Iran, pour le Tadjikistan, jusque-là, pas de problème. Pour le Pakistan, c'est pas un poil risqué, comme bled ?
En tout cas, j'avais le visa. Après, risqué, je ne pense pas, parce qu'on est escorté dans le sud, au Baloutchistan, c'est à la frontière avec l'Afghanistan. Mais il y en a qui disent que c'est super, il y en a qui disent que c'est dangereux, il y en a qui disent que quelques mois avant, il y avait un Espagnol qui voyageait à vélo qui s'est fait tirer dessus, et on entend tout. Donc, si on parle avec des Indiens, ils disent que le Pakistan, c'est dangereux, et puis si on parle avec des Pakistanais, ils disent que c'est super. Si on parle avec des voyageurs, ils disent que l'Iran, ben, c'est génial, donc ça dépend vraiment.
Pourquoi avoir choisi ces destinations à la fois lointaines, extrêmement exotiques et vues d'Europe un petit peu effrayantes parfois, parce que Bah, l'Iran, il y a tout un tas d'histoires, le Pakistan évidemment, l'Afghanistan, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui t'attire dans ces pays?
Déjà, c'était sur le chemin du retour. Donc, il n'y a pas 1 000 trajets entre le Vietnam et la Belgique. Donc, soit il fallait skipper en prenant un avion, soit prendre des bus. Et ce n'est pas mon genre de. Enfin, pas pour à ce moment-là, je ne voulais pas faire ça. Et je ne voyais pas ça comme du risque. Je voyais ça comme des rencontres, comme allez, la découverte, surtout la Silk. Je pense que je voulais vraiment passer par là. Mais je ne voulais absolument pas passer par la Chine. Donc, j'avais pas trop le choix non plus. Et après coup, c'est sûr que je le referais. Donc, même la foule, je pense pas que je le ferai en cours. Je le ferai, je pense, juste pour m'amuser comme ça. Pour profiter. Parce que c'est mon petit regret à chaque fois après une course, c'est de ne pas avoir profité, d'avoir roulé toute la nuit, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'Atlas en enduro. Pour rouler différemment.
Alors je note la phrase extrêmement rigolote, les occasions qu'on a dans une vie de pouvoir dire la route entre le Vietnam et la Belgique, il n'y en a pas 10 000. C'est quand même pas, c'est pas le truc qu'on va dire le plus souvent dans une vie quand même. Je veux rentrer du Vietnam à la Belgique. À vélo, c'est pas forcément ce qu'on va dire le plus souvent.
Ouais,
Pourquoi
après, ce
tu
sera en
voulais
Amérique du Sud.
Pardon?
Après, ce sera en Amérique du Sud, normalement. J'espère.
Ah. Pourquoi tu voulais pas passer par la Chine?
Je dirais, éthiquement, après, si on dit ça, on va dire oui, mais tu voulais passer par le Pakistan, l'Iran, tu es passé par le. Allez. La Birmanie. Mais la Chine, je n'aime pas leur manière de faire au niveau des visas, le peu de liberté qu'ils donnent à leurs voyageurs et tout ça. Je n'avais absolument aucune envie de passer par là. Je pense que je n'irai jamais de ma vie en Chine. À la limite, ouais, non, jamais.
Et donc là, tu vas faire l'Atlas Mountain Race en duo. Donc tu pars dans une dizaine de jours à peine, dans une semaine.
2 semaines, je pense. Le 1er février.
Ouais, dans 10 jours, ouais, dans une semaine et demie. Pourquoi, qu'est-ce que tu trouves de différent? Alors déjà, ça va être, bon, même si tu as fait un petit peu de VTT, ça va quand même être la découverte de l'ultra tout terrain, dans un terrain un petit peu inhospitalier, ou en tout cas un petit peu rude. Qu'est-ce que tu recherches dans cette manière de rouler en duo?
C'est le fait de pouvoir aller de m'arrêter, de ne pas vraiment faire la course. Enfin, je ne pars jamais pour une course pour un résultat, je pars d'abord pour finir toujours, mais après, en fonction des circonstances, je pousse différemment. Mais au final, je passe beaucoup de temps sur le vélo la nuit. Et je pense que je serais déçu de louper une grosse partie là-bas. Donc c'est sûr que je roulerai le soir, le matin, mais passer encore la nuit sur le vélo à cravacher, je n'ai pas trop envie. Donc j'ai proposé à un ami d'aller rouler là-bas et il a fait, allez, bonne idée. Et alors, il s'est inscrit.
Super. Une véritable idée de génie. Alors, Anatole, je vais reprendre le fil de mes petites questions. Tac, 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 tac. Alors, comme je te l'avais dit il y a 2 jours, selon une de mes sources, que je salue bien bas, évidemment, parce que c'est probablement la plus belle Belge que je connaisse, selon elle, tu es le futur Sofiane Belge. Alors, apparemment, tu n'es pas trop, trop d'accord avec ça.
Ah non, pas du tout. Bah déjà parce qu'il a accompli beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il a beaucoup d'expérience. Parce qu'il a sa manière de rouler. Et je n'ai encore rien gagné. J'espère que je gagnerai au moins une année. Mais
Il y a quand même quelques similitudes parce que Sofiane, comme toi, il vient du voyage à vélo. Je crois que la Chine ne l'a pas dérangé, mais en tout cas, il y a plusieurs similitudes. Et s'il a fait des débuts un petit peu plus fracassants que les tiens, tu n'es pas en reste au niveau des résultats. Bon, c'est juste que toi, tu es peut-être un poil plus bordélique, si j'ai bien compris. Et que on en reparlera tout à l'heure sur la Transibérica. Voir un petit peu comment tu as tracé ton parcours, si ça s'est passé exactement comme prévu. Mais bon, quand même, il y a quand même quelques similitudes. Donc cesse donc cette fausse modestie, s'il te plaît.
À part la barbe et qu'il ait fait du vélo avant. Non, je pensais qu'il était coursier, moi. Qu'il faisait de la course à vélo, enfin, coursier,
Oui,
messenger.
il était messenger, mais initialement, il est quand même cyclotouriste, si on peut dire.
Ah oui.
Voyageur cyclotouriste, comme toi.
Ah, je ne savais pas. Mais je ne sais pas du tout. Mais je ne me considère, je ne me, allez, à part le fait que je pousse un peu le sommeil, je ne me comparerai pas à lui du tout. Je n'oserais pas.
Par contre, tu es d'accord que quand même, ce que tu as accompli cette année sur la Transsibérica, sur la Tuvolcano, c'est quand même assez prometteur pour la suite.
Physiquement, j'étais content. Je trouvais que j'avais bien roulé. Mais j'ai perdu beaucoup de temps sur l'organisation, sur des bêtises, sur... Je dirais pas que je partais avec un vélo pas en ordre, mais j'aurais dû mieux faire ça. C'est un peu mon travail. Je me suis inscrit sur les deux courses, je me suis inscrit 2 semaines avant le départ, donc j'ai pas vraiment préparé. Et oui, ben j'apprends à chaque fois de mes erreurs. Je fais à chaque fois des erreurs différentes. Bon, la préparation, ça reste une erreur partout. Sauf au final, à la Race Across Belgium, je trouve que j'étais assez prêt. Après, c'est assez facile, c'était fort encadré. Mais là, j'avais fait l'erreur de ne pas garder le tracker et j'avais pas vraiment suivi tout ça. Sinon, j'aurais roulé vraiment différemment sur la fin. Donc ça, c'est allez, la petite déception. Après, j'étais quand même déçu parce que j'ai tout donné jusqu'à la fin. Mais après, j'ai fait quand même d'autres erreurs. Et...
Comme quoi, par exemple?
Apprendre le parcours un petit peu, au moins. Par exemple, pour la Tuvolcano Sprint.
Oui, c'est ce que là, tu m'as dit. Oui, que tout le monde connaissait les noms des villages et toi, rien du tout.
C'était au kilomètre près.
Toi, tu connaissais, tu vois, tu t'intéressais aux filles et c'est tout.
Non. Je savais bien qu'il y avait une montée au kilomètre 1000, le sommet d'une montée au kilomètre 1000, il y avait une montée au kilomètre 1020, des trucs comme ça, mais je ne me souvenais pas les villes du tout où on passait. J'avais pas lu le manuel, malheureusement. Désolé, Juliana. Et j'ai senti que j'aurais pu faire différemment, le début. J'avais pas bien regardé mes traces. Donc, dans mon GPS, le Vésuvio, on montait un volcan, puis on le redescendait et on partait. Et en fait, ça a tracé une ligne droite dans le Vésuvio. Et j'étais devant dans la montée. Et je me suis trompé. Je suis parti. Donc, j'ai perdu 5 minutes. Le temps de revenir, de remonter. Et la distance, il y en avait qui descendaient à fond de balle. Je trouve ça super dangereux. D'ailleurs, il y en a un qui est tombé, qui a dû arrêter directement. Donc, j'ai pas pris de risque. Et là, j'ai pris un gros nid de poule, un gros trou, et mon guidon a tourné. Donc, j'ai encore perdu 10 minutes. Et là, mentalement, j'ai commencé à douter. Oh, ça commence mal. Les signes. Et puis j'ai poussé à fond. Et puis il a fait 25 degrés sur la côte. Là j'ai pris un coup de chaleur. J'ai commencé à vomir partout. C'était vraiment vide, vide. Puis j'ai vu des gens qui draftaient. Ça m'a un peu mis mal à l'aise. Enfin oui, je vais même envoyer une photo à Juliana, l'organisatrice. Parce que moi je n'avançais plus sur le plat. Et eux je les voyais en train de drafter à 3. Et je dis que c'était pas normal. Et puis j'ai continué et je me suis dit de ne pas avancer, autant avancer mais lentement. Et puis j'ai continué, j'arrivais même plus à boire, plus à manger. Et puis la nuit, ça a commencé à aller mieux. Et là, j'ai commencé à en dépasser quelques-uns jusqu'à la crevaison.
Et là, ça a été fatal parce que tu ne sais pas réparer une crevaison?
Non, parce que j'avais pris des. j'avais changé de pneu juste avant de partir. J'ai mis les 32. Mmh. Et j'avais pris mes Tubolito. Donc, les chambres légères de la Transibérica, qui était du 28. Et j'avais oublié que le Tubolito, ça ne se déforme pas. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai dû marcher 20 km jusqu'à pouvoir réparer mon pneu. Donc, j'ai monté 2 cols et j'ai descendu 1 col à pied avec mes chaussures à clips. Et puis, j'ai pu repartir. Et puis là, j'ai tout donné jusqu'à la fin. Donc je passe du 16e jusqu'au 5e, je pense.
Tout à l'heure, avant qu'on débute l'enregistrement, on parlait un petit peu de gestion de l'effort, de tracker et tout. Et tu m'as dit que ta principale erreur a été de regarder le tracker dès le début, comme
non,
sur la Transsibérica.
Si j'ai pas regardé, justement, j'ai regardé à partir du kilomètre 900, je pense.
Ouais.
Parce que j'étais pour voir où j'en étais. Et puis au 900, j'ai commencé à regarder et à faire en fonction. Et puis il y a eu des petits problèmes de tracker et tout ça. C'était surtout quand j'ai attaqué Paul et Nawel. Parce que Nawel m'a dit non, j'attaque pas. Alors j'ai fait, allez, moi j'y vais. Et là, j'ai tout donné jusqu'au ferry. Là, j'avais calculé l'heure du ferry. Et je savais pile poil en même temps que le ferry. Donc j'ai repris 3 heures d'avance. Et puis, non, pas 3 heures. J'ai repris 1 heure, je pense. 1 ou 2 heures. Et puis ça s'est bien passé jusqu'au moment où je m'endormais vraiment sur le vélo. Mais j'étais tellement... Allez, à Tuvolcano, sur la fin, on est tellement proche et tellement loin de l'arrivée. Il reste 100 km, je pense, c'est 3000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Ce qui est énorme. Et donc, on sait qu'il reste 100 km, mais que ça ne sera pas 3 heures, que ça sera 5, 6 heures. Et c'est difficile de gérer cette partie-là, je trouvais. Toute la fatigue en plus. Et donc, j'ai préféré dormir et c'est là qu'ils m'ont rattrapé. Mais je savais que je serais plus frais pour la fin.
Donc c'est là que tu c'est cette partie donc dans la cinquième nuit dans la partie finale où il y a eu cette fameuse descente où tu t'es fait peur avec Nawel et que après il y a eu l'anecdote avec les Siciliennes et que tu as retrouvé Nawel roulé en boule dans un fossé.
Dans la montée avant, je me suis arrêté au premier village. Là j'ai pris un double espresso, un coca, un Red Bull.
Donc là, t'as tous les poils de la barbe qui sont tombés.
Et je me souviens que j'étais sur la terrasse, il faisait froid, j'avais les jambes en l'air, j'étais en train de boire tout ça en même temps, et je discutais avec le patron et une femme. Ils discutaient, elle me racontait, elle me demandait où j'allais, je lui expliquais le parcours, et elle voulait pas que je passe par là, elle disait que ça montait trop haut dans la montagne, que c'était une mauvaise route, que je devais prendre d'autres routes, et j'avais pas envie de perdre mon temps à lui expliquer que c'était un tracé fixe et que je pouvais pas changer de route, donc j'ai arrêté de discuter. Et puis j'ai voulu payer, mais il prenait pas la carte. Donc j'ai demandé où était une banque, et il m'a offert mes trucs. Et puis je suis parti. Et dans la descente, dans la montée, je commence à m'endormir. Je me suis dit, bon, j'essaye un peu la descente, ça va pas. Je sais qu'en Italie, il y a des maisons abandonnées partout. Et après, 3-4 km de descente, je commence à prendre du temps à freiner. Je m'endormais même pas, mais je sentais qu'il fallait que je m'endorme. Et directement, j'ai raté deux virages, j'ai fait là, je m'endors. Je me suis arrêté dans une maison, avec des bouches de vaches, des pierres partout, à l'abandon. Je me suis couché. Et puis, j'ai dormi 2 heures dans ma couverture de survie, assis plus ou moins parce qu'il y avait des pierres partout. Et puis, au moment de me réveiller, j'ai regardé le tracker, j'ai vu que Nawel et Paul venaient de me dépasser dans la descente. Et là, je me suis reparti directement à fond de balle et je les ai rattrapés. Et Nawel lui dormait dans un virage plus bas dans la descente. Et il était tout perdu. Et il m'a demandé pour appeler sa femme avec mon téléphone. Donc, puis je lui ai dit, appelle-la. Et moi, si tu veux, on s'attend un peu plus loin. Mais j'étais, parce que j'avais encore la couverture de survie dans mon maillot de vélo, dans ma vareuse. Et puis, et c'est à cet endroit-là que j'avais rencontré les femmes dans la voiture.
Bon, on va pas trop insister sur l'anecdote des Siciliennes, quand même. Alors, d'après Nawel, tes plans d'entraînement sont millimétrés, au quart de poil. Alors, pour dissiper un doute, est-ce que tu es une brute d'entraînement, un fanatique des chiffres, un acharné du capteur de puissance?
Alors là, pas du tout. Je me suis entraîné en faisant du vélo taf. Donc, j'allais tous les jours, je faisais 30 km aller, 30 km retour. Et quand il faisait sec, il faisait beau, que j'avais envie, je faisais 50 pour aller et entre 70 et 100 pour revenir. Et au final, ça m'a aidé parce que je n'avais pas le choix, je n'avais pas de voiture, pas de permis. Donc je vais aller travailler. Donc peu importe la météo, peu importe si j'avais envie, pas envie, peu importe si j'étais journée de soirée ou quoi, j'allais quand même travailler. Et je pense que c'était un bon entraînement, ça faisait quand même une bonne base, même si c'est pas énorme au début. Si, c'est quand même beaucoup. Mais on dit 30, 60 par jour, c'est pas énorme non plus. Et je pense que c'est un bon entraînement de base. Mais non, je roule sans capteur de fréquence cardiaque. Et maintenant, j'ai un capteur de puissance, mais c'est juste drôle parfois de regarder les chiffres, mais je ne m'entraîne pas du tout avec ça.
Ouais. Mais comme je te disais, hier, j'étais en formation podcast et j'ai montré donc le... Je donnais des exemples de podcasts pour indiquer un petit peu ce qui se fait dans la diversité des formats. Et je leur ai fait écouter Les Frappés. Et c'est là que j'ai découvert que tu avais donné un épisode dans Les Frappés il y a 2-3 semaines, juste avant Noël, je crois. Donc j'ai écouté juste l'intro. Et là, tu expliquais que tu n'aimes pas du tout ces trucs-là et que tu es plutôt freestyle avec l'entraînement.
Oui, je le laisse aller. Si je veux vraiment faire de l'intensité, je sais que je peux aller avec deux, trois, avec une personne avec qui, si je vais rouler avec Chris, par exemple, je sais que je serai, allez, dans les côtes, on va se regarder, on va aller à fond. Donc, si je veux rentrer dans l'intensité, je sais que je peux aller rouler avec lui et ça sera le cas. Mais sinon, non, je préfère rouler pépère et puis, en course, je sais pas, c'est peut-être de l'adrénaline ou, mais juste côté où je me transforme quand je suis en course, hein, pendant les événements, les courses, oui, on peut dire les courses. Et, même si c'est dur mentalement, je sais pas, il se passe quelque chose et je me concentre différemment.
Ça te transcende en fait les épreuves?
Oui, je pense. Mais il y a un engouement où je ne me rendais pas compte. Quand j'ai fait le Biking Man France en 2010, en 2020, je pense. C'est là que je me suis rendu compte de l'engouement qu'il y avait derrière les Dot Watchers et tout ça. Les gens qui. Allez, c'est quand même prenant. Je ne me rendais pas compte à ce point-là. Mmh. Et je l'ai expérimenté à la Transcontinentale cette année quand j'ai suivi ça. C'était assez cool. Et oui, ça donne quand même un regard extérieur et une pression. Ah, une pression, peut-être pas, mais une motivation supplémentaire, je dirais.
Une motivation pourquoi? Tu les connais pas tous ces gens finalement qui te suivent. Alors peut-être qu'ils t'envoient des messages, mais au bout du compte.
Non, mais beaucoup je connais.
Ouais.
Et par exemple, quand ici en Italie. Quand je marchais pendant mes 20 km, je sonnais à 2-3 personnes, on discutait, et j'étais vraiment proche d'abandonner. Et j'ai retrouvé des petits vocaux à mon frère. Et j'expliquais chaque jour, et je me souviens, j'ai réécouté, je me faisais vraiment de la peine dans ces vocaux-là. Là, bon, Jacques, là, je vais abandonner, juste au moment, ça s'arrête de continuer, je suis en train de marcher, il n'y a pas de village. Et là, mon autre copain au téléphone qui disait, si le prochain village, c'est 1 km, mais il savait très bien qu'il n'y avait pas de village, il y avait une maison, il était abandonné. Et je marchais. Et puis ça a été, mais il y a quand même, même beaucoup de gens que je connais ou des amis qui m'envoient des messages pendant les courses, et c'est quand même motivant. Mais le garde très peu, sauf quand ça va vraiment pas.
Ça te fait plaisir, en fait, t'as envie de leur faire plaisir, en fait.
Aussi, oui. Ouais. Et puis, Et puis, je vois pas l'intérêt d'abandonner, c'est pas dans ma nature. Je sais que quoi qu'il arrive, je donnerai toujours tout jusqu'au bout. Mais il y a des moments, oui, c'est difficile comme dans un moment, allez, dans un down, donc dans un moment où mentalement et peut-être physiquement ça ne va pas bien. C'est vraiment difficile. Genre, les deux premiers jours à Transibérica, j'étais presque en pleurs, enfin, sur le deuxième jour. Après la première nuit, je venais commencer le soir. J'étais tout seul comme ça, dans le vent, et j'étais presque en pleurs. Je voulais pas regarder mon téléphone, je voulais appeler personne. Ça n'est vraiment pas bien, et c'est le lendemain où ça allait mieux, où j'ai appelé ma maman pour lui dire, ah, non, tout va bien, aujourd'hui ça va mieux, je vais rouler à fond. Mais, il y a beaucoup d'émotions là-bas.
Je reviens sur les frappés. Tout à l'heure, quand tu m'as dit, quand je t'ai dit, tiens, j'ai écouté ton épisode hier, tu m'as dit, ouais, on n'a pas parlé beaucoup de vélo, on a surtout parlé de résilience. Et là, depuis tout à l'heure, tu me dis, abandonner, c'est pas dans ma nature, sur la Tout Volcano, ça n'allait pas, sur la Transibérica, j'étais en pleurs. Le lendemain, ça allait, pareil, sur la Tout Volcano, ça allait. Ça veut dire que toi, finalement, tu t'essayes de faire passer les mauvais moments. Tu fais comment quand ça va pas? Quand tu es en pleurs, quand tu n'avances pas, quand tu vois les autres draftés et qu'il y a en plus un petit sentiment d'injustice qui vient se mettre par-dessus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe là-haut?
Déjà, je me dis que c'est long, qu'il y a encore du temps. J'écoute beaucoup de musique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Moi, je rêve de beaucoup de trucs, en fait. Je me raconte des histoires dans ma tête, un petit peu. Comment dire? Ça dépend. Si je me sens mal parce que je suis malade, par exemple, si j'ai pris un coup de chaud et tout ça, ça me dit que j'avance, mais lentement. Donc, je gaspille peut-être moins d'énergie, mais qu'après, ça ira mieux. Je sais que je suis de manger un gros repas ou qu'il se passe un peu plus frais, que ça ira mieux. Oui, c'est ça. C'est un beau challenge mental, je trouve, à chaque fois de savoir passer tous ces moments-là sans. Allez. On peut toujours s'en vouloir, mais au final, tant que tu donnes tout, tu ne seras jamais déçu à la fin. Je pense.
Donc, tu n'es jamais déçu?
Non. Après, je me dis, j'aurais pu faire ça mieux. Je me dis, oui, mais ça ne s'est pas fait, je ne ferai pas la course, et puis c'est comme ça.
Alors, tout à l'heure, tu as dit, quel que soit le temps qu'il fait, je dois aller rouler parce que t'as pas de permis, t'as pas de voiture, donc tu dois vélo taffer pour aller au travail. Et même si je suis allé en soirée la veille, alors toujours d'après ma source, attends, je reprends mes notes, hein, parce que là, putain, il a fallu que je me documente et tout pour savoir ce que c'était. Donc d'après ma source, tu as une tendance, une légère tendance à abuser du Negroni. Alors pour info, le Negroni, c'est un cocktail à base de gin, de vermouth rouge et de Campari inventé à Florence en Italie, donc en 1919. La recette est très simple, 3 centilitres de gin, 3 centilitres de Campari et 3 centilitres de vermouth rouge. Et bien entendu, et attention, là je vais balancer une référence de film, au shaker, pas à la cuillère. Est-ce que tu as reconnu la référence ou pas?
Non.
Non, bah c'est pas grave. Est-ce que paraît-il que tu aurais tendance aussi à casser ta clé de Airbnb quand tu as un petit peu trop bu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende?
Ma clé de Airbnb.
Oh là là, il y a eu trop de cocktails en plus.
Ah oui, juste celle-là de la barrière, c'était en Italie, ça.
Ouais.
Ouais, j'avais oublié. Ouais, j'avais réussi à rentrer en plus. Ah ouais, non.
Et paraît-il que tu as laissé ton vélo bien en évidence, un super vélo. Hein. Alors par contre, je suis pas sûr de la prononciation. Jäger.
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 Ouais, j'ai laissé dans la rue parce que je ne pouvais plus l'Airbnb.
T'as pas réussi à rentrer parce que t'as cassé la serrure quand même.
Ouais. Alors, je l'ai laissé dans la rue et puis j'ai dû grimper au-dessus de la barrière et puis j'étais dormi et puis un gentil monsieur l'a mis de côté le matin.
Alors tu vois, pareil dans la même catégorie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en place un groupe WhatsApp, j'ai recueilli plein de questions. Et parmi toutes les questions alors, hyper intéressantes qui ont été posées, il y en a pas mal qui tournent autour de la diététique et du repos. Et toujours d'après ma source, une semaine avant la Tout Volcano, tu étais sur un festival de musique, et visiblement, tu étais totalement déchiré. Donc est-ce que tu apportes la même soin à la récupération, à la diététique que tu apportes à ton entraînement?
Oui, je fais. Assez rectiligne.
C'est-à-dire n'importe quoi du début à la fin.
On peut dire ça. Mais même pendant, hein, quand on était quand on s'arrêtait dans un restaurant, on était bloqué à cause de la pluie avec Nawel, on a quand même bu des bières là pour la Tout Volcano. On s'est dans un petit restaurant, on a dormi sur une terrasse et oui, on a bu deux bières à cet endroit-là. Après, ça fait toujours du bien hein, quand on ne sait pas avancer de toute façon.
Autant profiter. Bah, si t'es bloqué, hein, de toute façon.
C'est ça.
Donc.
Mais oui, non, bah déjà, même ma première course, c'était en France l'année passée. Et au départ, ils offraient, le jour avant, ils offraient des bières. On était sur la fournée des bières. Et puis, le lendemain, c'est parti. Bon, après, j'ai un peu payé, je pense, dans la chaleur, parce qu'il faisait 30, 35 degrés. Et j'étais complètement déshydraté. Mais bon, on apprend ses erreurs, normalement.
Alors, justement, cette année, tu as plusieurs épreuves ou pas au programme. Tu as fait pas mal d'erreurs l'année dernière. Est-ce que tu comptes un petit peu plus préparer, mieux structurer ton truc justement pour passer un petit peu outre ces erreurs? Ou est-ce que tu vas continuer à avoir une approche freestyle ou rock'n'roll comme vous dites autour de Liège?
Non, toujours la même, mais je pense que sur certaines, je devrais plus préparer. Par exemple, si je suis prêt à Transcontinental, j'espère. C'est pour ça que j'avais fait à la base à Transibérica, c'était pour apprendre à tracer. Bon, après, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai appris de mes erreurs, mais.
On va en reparler de ça.
J'ai fait. Et. Nous, je pense que certaines courses, je ferai beaucoup plus attention que d'autres, oui.
Pourquoi certaines et pas d'autres? Lesquelles, par exemple?
Parce qu'un sur certaines, ça pardonne pas. Je pense que en Allemagne, la Mittelbirch, quelque chose comme ça, et la Transconti, je pense que je ferai attention, oui. Bon, après, la Tour Volcano en duo, j'aimerais bien la gagner, mais je sais qu'en duo, il n'y a pas besoin spécialement de faire attention. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont plus importants.
Comme quoi?
Plus ou moins la synchronisation, savoir gérer les moments difficiles de l'autre et que l'autre gère les moments, les moments difficiles de l'autre du binôme. Je pense que c'est plus important que le reste.
Tu vas faire quoi alors cette année? Donc là, tu pars à l'Atlas Mountain Race et après?
Après, je vais faire une course à Lyon que j'organise, c'est la Unround. Et puis, je vais faire en Allemagne la Mittelgebirge, c'est 1300 km dans les Vosges et en Allemagne. Et puis, je vais faire normalement la Transcontinental, on verra si je suis pas repris, je fais la Trixie. Et après, j'organise Liège-Paris-Liège, donc là, je ne roule pas. Et puis, je ferai la Tout Volcano.
J'ai une question de Christophe le Suisse Tu viens de le mentionner, tu organises la Unknown Race. Alors pourquoi organiser un truc alors qu'il existe déjà des dizaines de courses ultra et que ça pullule tous les jours, qu'il en fleurit chaque jour un tout petit peu plus? Pourquoi organiser un truc encore en plus?
Je voulais quelque chose de différent. Justement, le fait de ne pas pouvoir préparer la course, c'est ça qu'on a mis en avant. C'est-à-dire que le premier checkpoint est donné, c'est parcours libre, le premier checkpoint est donné une heure avant le départ. Et on apprend normalement le CP2 quand on arrive au CP1. Donc comme ça, on enlève la partie de préparation. Et je voulais pas une course qui coûte 250 euros encore, ou 500 euros, ou 400 euros comme d'autres. Alors on a fait, ça coûte 95 euros. Et 50 euros vont pour le... Donc il y a une partie pour le tracker. Et 50 euros pour une œuvre de charité. 7 euros pour la casquette. Et 2 euros pour une bière. En gros. Donc, nous, on gagne rien, mais je voulais vraiment quelque chose qui profite à d'autres. Et où on peut se retrouver un peu l'ambiance avec, on organise ça avec 8 personnes de la, tout Volcano, et on voulait retrouver cet esprit d'après-course, donc on s'est bien amusé.
On en a parlé un petit peu il y a 2 jours, mais les tarifs deviennent parfois un petit peu délirants quand même sur les épreuves. En tout cas, les épreuves ultra, renommée et même parfois beaucoup moins renommée et beaucoup moins ultra des fois aussi, ça devient un peu la folie quand même.
Ouais, c'est un peu dommage, je trouve. C'est de devoir presque choisir à cause de ça. Et puis, certaines courses veulent beaucoup d'inclusion dans le... Oui, beaucoup d'inclusion et de diversité. Et puis, ils mettent des prix entre 400 et 550 euros. Je trouve pas ça correct, surtout qu'il y a des courses où on ne propose rien. Et ils jouent juste sur leur nom, mais après, ça, c'est le jeu, et on s'inscrit. D'ailleurs, je me suis inscrit, mais j'aurais même pas payé la course si on m'avait pas dit que quelqu'un m'aidait, quoi. Donc, non, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est pour ça qu'il en faut d'autres.
Donc, c'est pour ça que tu organises ton propre truc, où il n'y a pas grand-chose,
mais au
y a
moins,
même pas de parcours.
C'est accessible, c'est ça. Mais au moins, c'est accessible.
Ouais. Attends, je reprends mes questions, le fil de mes questions, parce que là, du coup, j'écoutais attentivement ce que tu me racontes. Quand même, ça m'arrive. Bon, alors, j'ai une question de Anthony qui me disait « Qui est véritablement l'homme derrière l'athlète ? Il se déplace régulièrement plusieurs semaines par an pour ses « balades », entre guillemets. Comment gère-t-il ses absences avec ses proches, compagnes, enfants, travail ?» Alors, t'as combien d'enfants, Anatole ?
Moi, j'ai 0 enfant, 0 femme. Et un petit peu de travail. Non, j'ai choisi un travail qui me permettait de voyager. Enfin, un mi-temps chez Jaeger, justement, maintenant. Donc, c'est loin, donc c'est quand même 1h30, ouais, presque 2 heures de déplacement pour aller et pour revenir. Mais c'est un mi-temps et je sais que je peux aller à mes courses sans trop de problème. Donc, c'était un peu ma condition pour avoir un travail, pour avoir cette liberté, entre autres.
Donc, pour le moment, tu te focalises un petit peu plus sur le vélo, finalement?
Cette année, oui. Après, on verra. Mais cette année, oui.
Ouais. C'est quoi l'objectif? Parce que tu te focalises, tu dois bien avoir une petite idée derrière la tête.
L'objectif, c'est de bien faire la transcontinentale. Après, on verra. Parce que sur une saison course, il y a tellement de facteurs qui sont imprévisibles. Mais j'aimerais bien faire. En tout cas, ne pas avoir de regrets sur la fin. Et me dire que j'ai tout donné et que j'ai fait au mieux.
Donc, t'attends quoi de cette transcontinentale pour être un petit peu plus précis?
De la finir.
Si tu prépares et que tu apprends à tracer et que tu utilises un logiciel adapté, ça devrait bien se passer.
Oh oui, après on ne sait jamais. Hein. Il y a quand même faire des heures par-ci, des heures par-là, une pénalité par-là. C'est difficile à dire. Après, même, je dirais même un top 10, ça serait déjà super. Après, on verra. Ça dépend vraiment. Il y a tellement de. C'est vraiment imprévisible, je trouve. Et je trouve que ça serait. Allez. Comment dire, pas hautain, c'est pas le mot, d'espérer un résultat, ce genre de choses-là. Il y en a, ils peuvent, je trouve, mais c'est des gens qui sont bien préparés pour ça, mais je ne peux pas me permettre ça.
Pourquoi tu ne peux pas te le permettre?
Parce que je ne suis pas assez rigoureux pour m'entraîner correctement.
Et pourquoi tu n'es pas assez rigoureux?
Parce que l'entraînement, pour moi, doit rester un plaisir et je ne saurais pas me forcer à faire des entraînements qui ne m'intéressent pas. Et quand je roule, je ne dis pas que je m'entraîne, c'est que je vais rouler.
T'as pas envie d'être un poil plus rigoureux, de te forcer le temps de la préparation pour la course? Parce que si t'as envie de bien faire, ça fait aussi partie du côté bien faire, la préparation. Si tu prépares bien, la course se passera entre guillemets bien.
Oui,
pourquoi
mais
partir avec ce handicap de préparation?
C'est pas un handicap. Je pense que si je ne prends pas plaisir à m'entraîner, j'arrêterai carrément. Ça doit rester un plaisir. Et le jour où je prends plus plaisir à rouler, ben je repartirai directement sur l'escalade, je pense. Ben, je suis sûr même. Donc, je ne saurais pas couper les deux. C'est pour moi incompatible. Et non, je sais bien que le jour où je prends plus de plaisir, je n'en ferai plus. Donc, je n'ai pas envie de entre guillemets, de m'infliger ça.
Bah, tu vas quand même devoir rouler un tout petit peu.
Ah, je roule, mais je vais au café, je m'amuse. Mais je ne me dis pas, je vais faire ça, ça, genre demain, je vais rouler. Je vais monter mon vélo aujourd'hui pour aller rouler 150 km, je pense, demain. Mais je ne vois pas ça comme entraînement, je vais juste découvrir Courtrai, par exemple. Et revoir quelqu'un avec qui j'avais roulé à la North Cape.
Tu vas à Courtrai demain?
Ouais.
Ouais, il y a le salon Vélo Folies en ce moment. Tu vas voir ça?
Ouais. Le samedi, je vais rouler à Courtrai. Le dimanche, j'irai voir Vélo Folies.
Ça n'a pas l'air mal. J'ai regardé un petit peu la liste des exposants. Ça a l'air sympa comme salon.
Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des très beaux stands, des très beaux trucs. Et puis, il y a des trucs vraiment dégueulasses.
C'est quoi un truc dégueulasse, selon tes critères?
Là, le stand à côté, enfin, deux stands à côté de celui de Jaeger, c'est des Belges qui remotorisent des vélos. J'ai même pas osé prendre de frais de leur stand, c'était vraiment... Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Ils mettent des moteurs sur des espèces de trottinettes de vélos, sur des vélos. Enfin,
n'importe
il y a de
quoi,
tout et n'importe trucs. Quoi. Mais il y a des beaux trucs. Ouais. Beaucoup de beaux trucs.
Est-ce que tu as envie de devenir pro, entre guillemets, d'avoir un petit peu plus de sponsors et de ne faire que du vélo ou d'avoir un travail au minimum et de te focaliser vraiment sur le vélo? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te trotte dans la tête? Ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Non. Oui, parce que ça faciliterait les choses. Et non, parce que ce serait des obligations, c'est-à-dire c'est, vendre des produits, tout ça. Je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que là, il y a Inabag qui m'aide pour les sacoches. Mais à côté de ça, je ne fais, disons, pas grand-chose. Ça ne me fait pas de... Allez. J'ai pas de contraintes à côté. Et je pense que j'aurais du mal. Je sais pas me vendre. Regarde mon Instagram, il ressemble à rien du tout. Mais je pose 2-3 photos que j'ai en cours, 2-3 photos que je prends. Mais sinon, je ne saurais pas avoir... je ne saurais pas vendre des choses. C'est pas
tout
très
à
bon
l'heure,
terme.
Tu me dis... Tout pas à l'heure, bon avant coup. Qu'on commence... Ah, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, fini.
Je n'ai pas de bon contenu, par exemple. C'est plutôt ça. Alors, je mets ce qui me traverse à la tête. Il me traverse la tête. Je mets... D'ailleurs, je fais même des fautes parfois quand j'écris, parce que j'écris ça en vitesse dans la voiture ou en déplacement, mais je ne fais pas attention à tout ça. Mais si j'avais l'occasion, je pense que ça me faciliterait pour certaines choses, oui.
Tout à l'heure, tu me disais, je regarde pas trop, j'écoute pas les podcasts, je regarde pas trop l'actualité de l'ultra, tout ça. Et je regrette que certains cyclistes soient plus vraiment des cyclistes, mais plutôt des créateurs de contenu. Tu peux m'en reparler de ça?
C'est que si on regarde, beaucoup de cyclistes, beaucoup de personnes qui sont sponsorisées en général, je dis bien, parce que pas tous, ce sont des gens qui ne roulent même pas beaucoup, mais qui ont juste des belles photos et des beaux trucs à raconter, qui posent des questions auxquelles ils s'en foutent des réponses de ceux qui répondent de toute manière. Et les marques aiment bien ça, vu qu'ils ont des gens qui les suivent. Je trouve qu'il faudra juste un milieu entre les athlètes et ceux qui font du contenu. Mais là, pour le moment, après, c'est un peu une niche ultra, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, je pense. Donc les marques ne sont pas trop intéressées à ça. D'ailleurs, il y a vraiment quelques marques qui sont intéressées, mais pas tant que ça. Et je trouve ça un peu décevant. Après, c'est le jeu, hein.
Mais toi, il va peut-être falloir que tu t'y mettes un jour.
Non, alors je préfère travailler.
T'as pas envie de devenir un homme sandwich?
Absolument
pas. Tout un tas de trucs et dire « Salut les petits choux, aujourd'hui je vais vous parler d'un shampoing anti-pelliculaire
!» Non, c'est exactement ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, et puis je suis beaucoup trop timide pour aller chercher des masques ou quoi que ce soit. J'avais l'année passée 2-3 sponsors, mais c'est même pas moi qui les ai trouvés parce que je n'osais même pas. Je n'ose pas demander à quelqu'un « Bonjour, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider pour ça ?» J'envoie 2-3 mails parce que ça, les mails, c'est indirect. Et par exemple, là, ça fait une semaine que je me dis « Ah, Vélofolie, j'irais bien en profiter pour peut-être aller voir une de marques, mais je sais très bien quand je serai sur place, je n'oserai jamais y aller. » Envoyer un mail, je trouve ça facile parce qu'on n'a aucun contact direct, mais aller demander, je pense que je suis trop gêné. J'essaierai peut-être, mais on verra le résultat.
T'es timide, toi ?
Pour certaines choses, oui.
Comme pourquoi, par exemple ?
Pour ça, par exemple, le fait de demander à quelqu'un, par exemple le sponsor, quand je connais pas les gens en général, après ça va de mieux en mieux maintenant, mais surtout avant, j'avais du mal. Au début de mon voyage, j'avais du mal avec ça, et ça m'a beaucoup aidé. Mais oui, quand même, après ça va mieux.
Est-ce que tu es timide avec les filles ?
Oui, quand même.
Est-ce que tu doutes de tes capacités à vélo ?
Non. Ça, non. Je sais que si je m'entraînais vraiment très bien, je pourrais faire beaucoup, beaucoup mieux. Ça arrivera peut-être. Je demande à mon ancien collègue. Il faisait une marque, le tableau. À chaque fois, il disait « Maintenant, je vais m'entraîner sérieusement. » Ça n'arrivait jamais.
Un peu comme les prisonniers qui font une marque. Elle est une semaine de passé, une semaine de passé.
Il y avait une marque, c'est « J'arrête de boire » et l'autre, c'était « Je m'entraîne sérieusement. »
Donc, t'as pas arrêté le Negroni et tu roules toujours pas ?
Je bois plus de
sérieusement.
Bière, mais ouais. Ouais, non. Peut-être maintenant, à partir de... On verra. Pour la transcontinentale, je pense que si je suis repris, je m'entraînerai vraiment sérieusement.
Et sinon ?
Sinon, je continuerai comme ça, en espérant bien faire. Mais là, ça part de Bruxelles, ça me tient quand même à cœur le début. Le début en Belgique, et tout ça, jusque, on ne sait plus où, jusque la Suisse, je pense. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de bien faire.
Si on venait un petit peu sur tes périples à la Transsibérica, qu'est-ce qui s'est passé avec le parcours ?
En fait, j'étais pas censé faire la Transsibérica, je faisais un Northcape au début. J'étais parti, puis j'étais 4 devant après 800 km. Et j'aimais pas du tout la course, c'était vraiment nul. L'organisation était nulle. J'avais pas envie d'aller jusqu'au Cap Nord parce qu'après, ça allait me coûter encore super cher sur place. Le déplacement, rentrer, la logistique, il n'y avait rien qui était préparé alors que ça me coûtait super cher l'entrée. Et quand je suis arrivé, c'était entre Berlin et Munich, vraiment la sortie de la République tchèque. J'ai gardé Olivier, celui qui joue les deux mains, qui était là. Il dit, moi je rentre, je tourne à gauche et je rentre à Liège. J'ai fait une partie à vélo, une partie en train. Donc, j'ai fait plus ou moins 1200 km pendant cette période-là. Et puis, sur le retour, c'est le dernier jour où on pouvait s'inscrire pour la Transibérica et j'avais deux potes liégeois qui allaient. Et je me suis vite inscrit. C'était le dernier jour pour s'inscrire, donc 2 semaines après, je pense, je partais pour la Transibérica. Donc, j'ai dû vite tracer quelque chose. Et j'ai tout fait comme out. Ce que je ne savais pas, je n'aurais pas dû. Et j'ai appris qu'il faut éviter les... Vaut mieux rouler plus et... Allez, avoir plus de possibilités, donc parfois rouler 5 km de plus et avoir moins de dénivelé ou moins de grosses pentes. On a beau aimer grimper, ça use beaucoup les cuisses, les forts pourcentages en course. Et oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à rectifier, que ce soit les vallées où il y a le vent de face, que ce soit les gros pourcentages, les mauvaises routes, les traversées de ville. Il y a beaucoup de choses qui a moins. Parfois il en faut, parfois pas, en fonction pour se ravitailler ou s'il faut avancer. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais j'ai fait énormément d'erreurs.
Même dans la gestion de la course ?
Deux grosses erreurs à la gestion de la course, c'est au début. Et pas au début. C'est vers la moitié, à un moment, je me suis dit, j'étais repassé deuxième. Et. Il dit, allez, je tente le coup de nuit et je vais rechercher le premier. Et là, j'avais plus de lampe. J'étais en plein milieu de la montagne. Et j'ai commencé à rouler à la frontale. J'ai fait 3 cols avec la frontale de nuit. Et au moment où j'étais à la dernière descente, ma frontale s'est coupée, j'avais plus de lampe. j'ai continué à descendre et je commençais à m'endormir et je revenais. Donc j'étais 15 minutes derrière le premier. Et puis là, quand je suis arrivé, je me suis écroulé, j'étais fatigué. Et puis là, on a repris l'avance. Et la deuxième fois, on est passé tous les deux par le Portugal, grosse erreur de tracé. Et là, je me suis arrêté dans un Intermarché, parce qu'il faisait 40 degrés plus ou moins, il faisait frais. Et je n'avais pas encore mangé depuis 4-5 jours. Je trouvais que des kebabs et de la nourriture dans les super les bons passants. Et là, je me dis, je trouve un plat de pâtes déjà préparé, ça va bien me goûter. Et il n'y avait rien. Je trouvais le rayon yaourt et j'ai acheté 3 litres de yaourt. Je ne bois jamais de produits laitiers normalement. Et ça m'a démoli. J'étais mal, j'avais mal au ventre, toute la nuit j'étais mal. Et je me suis endormi sur un rond-point. Et là, l'autre a repris de l'avance. Guillaume a repris quelques heures d'avance. Et là, je savais que c'était fini. Puis j'ai bataillé pour que celui derrière ne revienne pas.
Donc, moralité, le yaourt pour toi, ça goûte pas bien.
Si, c'était bon, mais ça m'a démoli les estomacs.
Pourquoi avoir pris cette décision à ce moment-là, alors que tu ne bois jamais de produits laitiers? Pourquoi tu t'es rabattu sur un truc qui, notoirement, tu le sais, ne te convient pas?
Parce qu'il faisait 40 degrés, c'était frais, yaourt à la banane, à la fraise. J'ai vu ça, des Actimel. J'ai repensé à Irène Thomas qui buvait des Actimel.
Ouais, génial.
Je sais pas, je me suis dit, waouh, bonne idée. Et puis après, c'est une mauvaise idée. Et, je m'en suis pas mal sorti sur la fin, mais. Oui, je pense que ça, c'est l'ordre que je ne ferai plus. Il faut essayer de bien trouver des pas une fois de temps en temps. Et puis, c'est surtout les nuits à l'hôtel que j'ai pas fait. Là, c'est une question de prix aussi et de disponibilité. Ouais. C'est de dire, allez, je m'arrête pour 3 heures. Je vais pas mettre 110 euros dans une nuit. Oui, ça, je pense que c'était le plus dur pour la récupération. Donc, j'ai fait quelques nuits de 3 heures et tout ça, mais le fait de dormir dans un lit, je pense, aurait été plus important que de dormir par terre.
Je reviens sur le coup du lait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté... Je suis à deux doigts de revenir sur le premier, mais j'ai peut-être pas tout à fait envie de gagner, alors inconsciemment, je vais trouver un truc pour me faire planter la course.
Non, parce que je n'étais pas si proche de lui, mais je sentais que je revenais petit à petit et que la partie portugaise me correspondait assez bien au niveau des vraiment des gros raidillons de 1 km à quelque chose comme 15-20%. Et ça faisait mal et j'aimais bien, enfin, pas j'aimais bien,
t'aimes
ça,
bien
mais,
ça.
Mais c'est des. Sûrement des côtes qui me correspondent assez bien. Ça semblait fort aux Ardennes, avec la chaleur en plus. Et je m'en sortais vraiment bien. Et je pense que cette partie-là, je me reprenais des heures petit à petit, en fait. Et puis, après, je me suis écroulé.
Il y a 2 jours, comme je t'ai dit, je parlais avec Josh Ibet. Et il m'a dit, quand on est mort, on a tendance à prendre les mauvaises décisions. Est-ce que ça fait partie des mauvaises décisions que tu as pu prendre? Et il me parlait aussi de la gestion de l'émotion, en fait. Pardon. Où on a des moments où on est extatique et hystérique dans la joie, et des moments où, comme toi, c'est arrivé, et lui aussi, et comme beaucoup, d'un arrivé aux larmes. Et que un des secrets, c'est d'arriver à vraiment lisser ses émotions et d'enlever ses pics en haut et en bas, pour essayer de prendre des décisions les plus neutres possibles. Est-ce que c'est pour toi un truc sur lequel tu dois travailler?
Oui, je pense. Après, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est marrant que tu le dis, c'est sûr que ça devait être quelque chose comme ça. Mais il y avait déjà tellement eu de problèmes avant ça, avant cette période-là. Ça me paraissait, allez, petit. Dans le sens où j'avais des... J'ai oublié comment on appelait ça, les boutons de sel et tout ça, depuis les kilomètres 300. J'avais pas souffert beaucoup au niveau du genou. Parce que je savais presque plus m'asseoir sur la selle, depuis presque 1000 et des kilomètres, donc, puis je doutais beaucoup du parcours, je savais que mon parcours n'était pas bon, à ce moment-là où j'étais en Portugal, je savais qu'il fallait pas passer par là. J'avais d'ailleurs une autre trace sur mon, sur mon GPS, qui contenait le Portugal et qui était la bonne trace, qui passait par la Galice. Et j'avais dit, oui, j'ai une autre trace, je disais à mes copains, oui, j'ai une trace qui passe pas par le Portugal, mais c'est pas la bonne et tout ça. Et au final, j'aurais dû la suivre, mais. C'est peut-être là qu'il faut essayer de travailler. Parce que c'était vraiment des heures et des heures de gagner.
Donc tu aurais pu gagner en fait.
Non, je ne pense pas. Je ne sais pas dire. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. On roule différemment aussi quand on est loin, quand on n'est pas loin. Difficile à dire. Et mentalement, c'était... Sur le Race Cross Belgium avec Steven, c'est la même chose. Je pensais qu'il avait des heures devant moi. Et à un moment, il était juste 10 minutes devant moi. Et vu que j'étais parti 30 minutes après lui, en fait, j'étais devant lui sans le savoir. Enfin, j'étais derrière lui pour la course, mais en termes de temps, j'étais devant lui sans le savoir. Et moi, je prenais tout mon temps en pensant que j'étais 5 heures devant. Et puis, j'ai rattrapé celui qui était deuxième. Et mais je pensais que Steven était toujours loin devant. Alors, je m'arrêtais. J'ai discuté avec des... Vu que ça passait à côté de la maison... discuter avec des gens au bord de la route et tout ça, sans savoir qu'ils étaient pas si loin que ça. Donc j'ai vraiment mal. C'est pour ça que je dis que j'ai mal géré cette partie-là. J'aurais dû regarder plus le tracker à ce moment.
Est-ce qu'il y a un équilibre, un juste milieu à trouver dans la gestion du tracker? Parce que tout à l'heure tu me disais je l'ai trop regardé et c'est une erreur parce qu'on a tendance à sortir de sa course et à faire en fonction des autres. Et là au contraire, à l'instant tu viens de me dire que tu aurais dû le regarder davantage.
Oui, ça dépend de la longueur de la course, déjà, je pense. Sur une course de 1000 km, le tracker a peu d'importance, vu que c'est un sprint. Donc, sur 1000 km, on est presque à fond tout le temps, je pense. Alors que sur 3000, il faut gérer les nuits en plus, il faut gérer chacun une gestion différente de la nourriture, un parcours en plus différent, donc c'est... Parce qu'on ne peut pas se focaliser là-dessus, il faut se dire, bon, je peux regarder une fois tous les 1000 km, par exemple, ou à 2000 km de l'arrivée, regarder où j'en suis... Plutôt faire un plan dans ce top-là que de regarder toujours, oh, lui va par là, il faut vraiment rester sur son plan et se dire, bon, avoir confiance en soi et sans vouloir casser quand même si on a fait une mauvaise route.
Tu fais quoi chez Jaeger?
Je monte des nouveaux vélos et bientôt on va réparer les vélos qu'on a montés.
C'est pas une marque hyper connue en France?
Non, mais c'est. Bah, ceux qui connaissent les vélos en acier, en général, connaissent. Et des vélos en inox et en acier, gravel et route, type et performance.
Et toi, tu roules sur quoi?
Sur un Jaeger Ascender, donc c'est sur la route. Et je cherchais un vélo à la base qui était tout fait en Europe, et donc j'ai un peu regardé ce qu'il y avait autour en Belgique dans les cadreurs, il n'y avait pas tant que ça. Puis j'ai regardé un peu en France, il y avait de distance qui m'intéressait, mais c'était moins sportive, je trouvais. C'était plus randonneuse. Ouais. Et Jaeger correspondait parfaitement à ce que je cherchais alors que j'étais là-bas. Puis je lui ai demandé pour monter mon propre vélo moi-même. Et puis il m'a dit, si on t'offre un job, tu dis oui. J'ai dit oui. Et puis voilà. À la condition que je puisse faire mes courses. Parce que c'est le problème
dans
le vélo, c'est que la haute saison, c'est dans les grandes vacances, donc juillet-août. C'est la haute saison. Et sinon, c'est impossible d'avoir des vacances à ce moment-là.
Donc toi, tu roules sur un vélo en acier, en fait?
Oui, en inox. C'est-à-dire que c'est de l'acier assez stiff. C'est rigide. Oui.
Tu es en groupe électrique ou électronique ou,
Aujourd'hui, j'ai monté un groupe DI2 dessus. À la base, c'était un campin mécanique qui allait très bien, mais les pièces coûtaient fort cher. Alors j'ai mis un DI2. Enfin, je dois le mettre le DI2 maintenant.
Tu vas le mettre là, les jours qui viennent, tout à l'heure?
Dans une heure.
Ouais. Oh oui, on aura fini. Souvent, on entend sur les groupes Facebook, sur les réseaux divers, on voit souvent de divergences sur les gens qui doutent un petit peu des groupes électriques, notamment pour l'ultra, et qui doutent encore de la fiabilité de ces groupes-là. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu?
C'est que à Transibérica, j'avais pas changé mon câble de dérailleur avant et il a cassé dans la course. Donc j'ai fait l'essai en 60 derniers kilomètres sur une vitesse, avec deux plateaux, mais avec une vitesse derrière. Et alors que je savais qu'elle allait casser, je le sentais, mais elle changeait tout ça, donc j'ai continué comme ça. Et surtout ici en Italie, ou à la fin de la course, vu que les routes étaient mauvaises, j'avais fort mal aux mains, je ne sais plus bouger mes doigts, et je ne sais plus changer les vitesses. Alors qu'un DI2, il suffit simplement de pousser sur un bouton et au final, c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai pris un 11 vitesses et pas un 12 vitesses. Parce que le 11 vitesses, on sait le recharger en roulant et pas le 12 vitesses. Parce que le 12 vitesses, on charge sur le dérailleur. Donc le choix du 11 vitesses, c'est réfléchi.
Ouais, c'est un truc souvent qu'on oublie, c'est vraiment la facilité d'utilisation. C'est que quand on a vraiment froid aux mains, faire un, et notamment avec les Shimano, faire ce grand mouvement pour remonter par exemple un plateau ou dans la cassette et faire le grand mouvement comme ça avec, quand tu as les mains gelées. C'est tellement plus simple de faire une petite pression du doigt comme ça, et tu peux mettre même juste un coup et ça remonte quand même. C'est tellement plus agréable.
Avec Campagnolo, c'est encore pire. Ça allait super bien, mais ça, au niveau de... Au moment où on a pu sortir dans les doigts, c'était vraiment difficile. Changer les vitesses avec les paumes de main et tout ça, en tirant avec la main droite pour le côté gauche, c'est vraiment trop. Donc je préfère vraiment le DI2, je pense que c'est un bon choix, on verra. Mais niveau confort, c'est sûr.
Tu t'es mis quoi comme braquet?
Normalement, je roule toujours en 50-34, 11-34. Mais là, sur le groupe, c'est un 52-36 et j'aime encore bien. Là, c'est un 28 derrière, c'est un peu trop difficile, je trouve. Bon, pour s'entraîner, ça va, mais pour les courses, je pense que je repasse en 50-34, 11-34 ou laisser un 52-36. Au niveau vitesse, ça va vraiment très vite. Je trouve qu'on gagne vraiment des kilomètres heure, beaucoup plus de force. Il faut savoir l'emmener et tout ça, mais...
Avec le 52?
Oui. Franchement, monter quand on monte gros plateau, ça va vraiment plus vite.
Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais oui, les plateaux, enfin les pédaliers compacts, c'est bien, mais quand tu passes d'un 50 à un 52-53, t'as l'impression de changer d'univers, c'est trop bien. Et tous ceux qui ont fait le cheminement inverse, qui sont passés d'un 52-53 à un plateau compact, ont eu l'impression d'être collés à la route.
Ah, c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça, mais là j'ai roulé trois fois avec, et la sensation était assez incroyable. Mais j'ai juste peur, une fois, parce que le 11 et le 12 ou 13, il ne sert à rien pour moi avec un 52. Il faudrait trouver une cassette 13-34 ou 14-34, ça serait parfait, mais ça n'existe pas, à part chez Michel. Donc on va voir, mais je pense que je vais rester en 52.
Surtout pour être énervant.
Surtout pour la transcendantale, ça monte pas fort, c'est beaucoup de plat. Donc c'est important, je pense.
C'est un petit peu énervant, cette tendance à avoir des petits plateaux et tout petit pignon derrière, alors que ça craque et que notoirement ça frictionne à mort, et qu'en termes d'efficacité, c'est absolument pas bon en termes d'efficacité quand même.
Ah, oui, j'ai jamais pensé à tout ça. Mais
Il me semble que... Vas-y, pardon.
Mais je pense qu'il y a moyen de gagner quelques kilomètres heure avec ça. Après, il faut savoir s'entraîner à pousser plus fort, je pense. Mais quand on y arrive, je pense que ça vaut.
Ouais. Il me semble que tu as essayé le système Classified.
Oui, au Gravelman, oui.
Ouais. T'en as pensé quoi?
C'est intéressant. C'est spécial. Et c'est bien pour la longe, en fait. C'est qu'on peut mettre un gros... Ça, c'est vraiment cool pour la longe, c'est qu'on peut mettre un gros plateau. C'est comme on roule du gros plateau, en fait. Donc, on passe petit plateau, mais c'est dans le moyeu que ça change. Donc, la démultiplication est différente. Mais on garde beaucoup d'allonge. Donc là, je montais des bergs à 20%, donc les bergs en Flandre, avec un 50. Donc, on garde toujours de l'allonge. Donc, ça, c'est assez chouette. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal. Il n'y a pas de dérailleur avant. Après, le 1x12, de manière générale, je ne suis pas fan au niveau de la ligne de chaîne. Je préfère le 1x11. Mais c'est pour un mono, autant mettre ça. C'est un moyeu, donc c'est un double au final.
Ouais. Tu vas faire quoi entre l'Atlas et la TCR pour te préparer?
La Unknown et la Mittel.
La Mittel Binge?
Ouais,
la Mittel. Le truc imprononçable. Non, mais quelle idée, quoi. Quand même. Le truc imprononçable.
Il paraît que c'est vraiment très chouette comme course. Mais oui, je pense que c'est une bonne préparation, parce que l'année passée, il manquait quelques kilomètres avant la race Cross Belgium. Je savais que j'ai pas fait de longue distance et qu'après 100 km, je coinçais un peu au niveau endurance. Donc il faudrait au moins une ou deux longues distances avant.
Ouais, parce que tu vélo taf, là, demain ou samedi, tu vas faire, demain ou dimanche, tu vas faire 150 km.
Mais est-ce que tu maintenant. Places.
Hein?
Je ne vélo taf plus maintenant.
Tu t'embourgeoises petit à petit quand même.
Non, mais sinon, il y a 200 km.
Ah, effectivement, oui. Est-ce que tu places quand même des gros blocs avec beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures? de temps en temps quand même, en préparation?
Oui, presque tous les week-ends, enfin, quand il fait beau, parce que là il neige, il a tombé 3 cm ce matin. Mais quand il fait beau, oui, je sors vite fait 8 heures, 200, 230 km. Mais quand je m'entraîne, je ne sais pas faire une nuit sur le vélo. Ça, j'ai vraiment du mal. En course, ça ne me dérange pas, mais en entraînement, j'ai vraiment du mal avec ça.
Qu'est-ce qui te pose problème avec ça?
C'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de concentration. Et c'est pas toujours agréable de rouler, je trouve, une nuit complète sur le vélo.
Clément Clisson fait ça de temps en temps, il me l'avait raconté. Il sort du travail, il travaille dans un magasin de vélo. Il sort du travail, il va rouler, il passe la nuit sur le vélo et le dimanche matin, il va rejoindre son club et il refait une petite boucle avec eux.
Oui, moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, si, je pourrais le faire, mais je vois pas l'intérêt.
Tu prendrais pas de plaisir en fait là-dedans.
Non.
Techniquement, tu pourrais le faire, physiquement, tu pourrais, parce que tu l'as déjà fait. Mais c'est que tu vois pas de plaisir là-dedans.
Non, je suis juste allé avoir froid, aller prendre des routes la nuit, risquer une chute pour rien. Non, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère aller rouler dans les feuilles le lendemain matin, quand il fait beau, et faire une
Aller
boucle
monter
de
la
30 passants.
redoute.
Ouais, ça, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup.
Tu l'as monté plusieurs fois la redoute?
En tout,
C'est le classique.
je pense que je travaille, je pense que j'ai monté presque une trentaine de fois. J'ai fait les bassins en single speed. Hein. J'ai monté tout en 46-18, je pense. Stokke, réchauffe ou comme ça.
Pourquoi en single speed?
Oh, c'était un vieux pari. J'ai fait Liège. Non, c'est quoi? Paris-Roubaix, Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège avec ce vélo-là. C'était mes collègues qui m'avaient lancé la mauvaise idée.
Mais n'empêche que tu as dit oui, tu l'as fait. Donc c'était pas une si mauvaise idée que ça quand même.
Pour Tour des Flandres, là, j'avais pas trop le choix. Et puis, là, ils m'ont dit, bah, tant que t'as fait Tour des Flandres, maintenant, on va faire les deux autres. Alors, j'ai fait aller. Et vu que Paris-Roubaix, c'était SP qui m'a filé une place parce qu'il était sponsor et que je travaillais là-bas. Et pour Liège-Bastogne-Liège, bah, ça démarre derrière la maison, donc c'est facile.
Mon petit Anatole, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié d'aborder?
Non, je ne pense pas.
Eh bien écoute, je vais te remercier bien chaleureusement, te souhaiter un excellent voyage pour le Maroc,
Merci à toi.
et je vais te laisser pour la minute de solitude. Et je pense que tu vas adorer cet exercice.
C'est-à-dire?
Eh bien, je vais couper mon micro, ma caméra. Je coupe pas l'enregistrement, toi tu restes devant ton ordinateur et tu dis ce que tu veux pendant 1 minute, 2 minutes, tu fais ce que tu veux.
Ça marche.
Ah, t'adores, je sens que tu adores cet exercice, je sens que ça va te plaire énormément.
On verra.
Est-ce que tu as des choses à dire encore? Oui.
Ça commence quand?
Bah ça commence quand je coupe mon truc. Quand tu as fini, tu coupes pas ton ordinateur et tu coupes rien. D'accord? Tu quittes, tu voilà. D'accord?
Ça marche.
À bientôt, Anatole.
Un plus grand merci à toi. Au revoir.
Salut.
Donc j'ai une minute pour raconter des conneries. Alors, on va commencer par venez participer à la Noun, c'est à Lyon, donc il reste une cinquantaine de places et on va bien s'amuser surtout à l'arrivée, je pense. Et à Liège-Paris-Liège, si vous voulez venir faire une chouette course avec une dimension historique de Liège-Bastogne-Liège, bah, vous êtes les bienvenus. N'oubliez jamais de changer vos câbles de vitesse avant une longue course, c'est important. Et surtout, toujours prendre du plaisir, c'est le plus important. Et ne jamais abandonner, souvent qu'à l'extrême, bien sûr. Un tout grand merci d'avoir écouté et à bientôt. Et venez dire bonjour à la Transcontinental Race au début. Ça sera un chouette moment, j'espère.